cette phrase que je viens de vous dire de Freud, à propos de l'Innenleben, Freud dit « Wir lassen sie im Innenleben der Kranken, wo sie hausen, entstanden sein. » Ils prennent naissance dans la vie intérieure des malades. Dommage que Freud ait parlé de Kranken, dommage que Freud ait parlé de malades, car, comme il le dit, les démons s'intègrent à la métapsychologie du fonctionnement mental de tous. C'est dommage, à moins que Freud n'ait voulu par là rappeler que la psychanalyse est aussi une science d'action et pas seulement une science d'observation. Si ces démons habitent les malades ou les psychismes souffrant les psychismes fragilisés, alors on devrait pouvoir agir sur eux. On devrait pouvoir leur parler, les apprivoiser. Mais alors, la métapsychologie ne convient plus, car elle ne parle d'aucun moyen d'accès à cette demeure ou d'action sur ses démons par notre propre pensée. Elle ne parle d'aucune conversation possible entre nous, démons, anges ou fées. Et si Freud veut agir, et c'est évident qu'il veut agir, il l'a montré tout du long, qu'il cherchait à agir, si Freud veut agir, il se doit alors d'admettre soit que les gens qu'il a en analyse sont malades, c'est-à-dire qu'il objective les démons ou qu'il objective les hypochondriaques, et alors il court le risque d'être supplanté par les professionnels du culte ou par les professionnels de la maladie psychophysiologique. Soit il va admettre que les gens qu'il a en analyse lui sont incompréhensibles. Il est subjectivement troublé, il est dérangé. Comme les fous sont des dérangés. Et son action visera alors la relation, c'est-à-dire aussi bien lui-même que ses gens. La question qui se pose alors est de trouver comment réussir à comprendre, à s'entendre, comment parler à ses démons, parler à ses anges, parler à ses fées, ou parler à ce cheval du petit Hans. Comment établir un dialogue doté d'efficacité pour leur faire entendre raison. Autrement dit, être dérangé, on n'aime pas ça. On est mal aimé et on a affaire à des mal aimés et c'est le cas de toute relation psychanalytique. Que faire pour aimer suffisamment ses patients, pour les aimer comme il faut, qu'ils soient malades ou non, pour être suffisamment aimés d'eux, afin de comprendre et de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas mal aimés au point de devoir s'expliquer, se justifier, trouver des coupables, des démons, des chevaux ou de l'être, d'être honteux, dégoûté, quérulent, virulent, désespéré, incompris, abandonné, et comment faire pour que l'avenir puisse être envisagé sans tous ces handicaps. Que faire aussi pour ne pas se sentir mal aimé soi-même et ne plus ressentir tout ce qui se dit comme des blessures, des obstacles à ce qu'on souhaiterait, pour eux comme pour nous, à ce qu'on se souhaiterait. À propos de maladie ou de normalité, on peut lire dans « Inhibition, symptômes et angoisses » une saisissante réflexion de Freud concernant justement le petit Hans et qui montre bien qu'on ne voit pas si facilement à l'œil nu chez les enfants ce qui est déformé chez l'adulte. Ça se passe à peu près comme ça. Hans a peur de sortir de chez lui, c'est ça sa phobie. Mais ça n'a vraiment rien d'inhabituel pour un enfant d'avoir peur de sortir chez lui, dit Freud. Mais Hans a peur d'aller sur le chemin et il craint de rencontrer un cheval. Et Freud d'ajouter que, après tout, les enfants ont souvent peur des gros animaux. Donc, il n'y a rien de particulier à cette phobie-là. Mais, poursuit-il, c'est que Hans a peur d'être mordu par le cheval, ce qui est plus inhabituel. Est-ce que ça serait là le symptôme morbifique? Au fait, non, dira Freud, parce que cette peur s'explique très bien, de même que celle d'autres enfants ou d'adultes, comme vous et moi, qui ont également peur d'être mordus ou de recevoir une ruade s'ils s'approchent de trop près d'un cheval par derrière. Et Freud de s'exclamer enfin que l'analyse nous apprend que le cheval représente le père. Alors ici, tout bascule. On change totalement de registre. La phobie tient à ce déplacement découvert par l'analyse. On voit alors le saut de l'objectivation du symptôme qui en annule la valeur, peur de cheval, à une découverte psychanalytique qui n'est plus objectivable. Sa valeur est subjective et nous n'avons plus qu'à y croire. C'est l'analyse qui nous dit que le cheval n'est pas le cheval, mais que de là, dans la vie intérieure du petit Hans, dans cette demeure psychique, habite un père qui, quand il en sort, devient cheval. Freud découvre que le cheval, c'est le père. N'est-ce pas là rendre à l'expérience toute l'importance que la métapsychologie lui déniait? Et c'est là que réside tout l'espoir de l'analyse, de l'efficacité de l'action de l'analyste. Si le cheval n'est plus le cheval, mais père, il y a matière à discussion pour tenter d'y comprendre quelque chose. Ici, l'analyste apprend quelque chose que seule l'expérience est à même de lui enseigner. Il aura, pense-t-il à bon droit, plus de facilité à parler à ce père intérieur qu'à parler au cheval du laitier. Au moins peut-il tabler sur un langage commun. Et pourquoi ou comment l'analyste découvre-t-il que le cheval, c'est le père? Eh bien, c'est Die Verneinung, la négation, un article aussi court que percutant de Freud, paru en 1925, c'est toujours dans les mêmes années, qui va nous en donner une clé. L'affirmation « c'est le père » repose sur sa négation originale. Et cette négation provient de qui? Eh bien, elle provient de Freud lui-même. Ce serait Freud qui, dans un moment de lassitude, devant la difficulté de l'entreprise avec le petit Hans, se serait dit quelque chose de ce genre concernant Hans. Mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant, à ne pas vouloir changer? Il m'irrite et pourtant je l'aime bien. Et d'ajouter, enfin quoi, je suis quand même pas son père. Alors, dira Freud, si l'idée me vient que je ne suis pas son père, donc, je suis son père. La négation cache l'affirmation refoulée, inconsciente. Mais, ajoutera-t-il, l'affirmation ne lève pas pour autant le refoulement. Je suis le père? Oui, enfin non. Non, c'est le cheval qui est le père. C'est lui qui l'attire et qui lui fait peur, à la fois. C'est là la prodigieuse découverte de la complexité du transfert. Alors j'étais bien son père à vouloir le soigner et l'aimer comme je l'ai fait et à être agacé par cet enfant que je n'arrivais pas à guérir. J'étais bien son père sans que je l'ai su, comme le cheval est son père sans qu'il le sache. Je suis son père, le cheval l'est, alors que son père dit réel est là devant moi en chair et en os. Et j'ajouterai ce que Freud aurait pu ajouter aussi. Et si je suis son père, je ne suis pas sa mère. Cette grande absente du traitement, ultime dénégation de son rôle de parent, père et mère. Cette grande absente, mais Freud, ou plutôt non, Hans, n'en avait-il pas parlé? L'histoire du cheval tombé par terre, sur le dos, s'agitant avec son gros ventre, les quatre fers en l'air. Un cheval enceint, quelle histoire! alors ça serait une mère. Et une mère, les quatre fers en l'air, c'est cocasse. Une mère, ça n'a que deux jambes. À moins que les deux autres jambes seraient celles du... Non, c'est pas concevable. Et nouvelle, prodigieuse découverte de la scène primitive, où, selon moi, deux êtres absolument inconnus font des choses absolument impensables, puisque je n'existais pas, et d'où pourtant, dit-on, je proviendrai. Transfert, scène primitive, c'est vite écrit, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps à se découvrir et à devenir clair, si jamais cela devient vraiment clair un jour. Dans le même inhibition, symptômes et angoisses, où tout est mis en doute, tout est remis en question, Freud s'exclame à un moment, je vous lis en allemand, « Wenn der Wanderer in der Dunkelheit sinkt, verleugnet seine Ängstlichkeit, aber sieht darum nichts heller. » C'est très poétique parce que Freud ne dit pas « dunkel », il dit « Dunkelheit ». Il ne dit pas « Angst », il dit « Ängstlichkeit ». Il ne dit pas « klar », il dit « hell ». Quand le promeneur chante dans l'obscurité, il nie son anxiété, mais il n'y voit pas plus clair pour autant. C'est une réflexion aussi poétique que métapsychologiquement désespérante. Il a beau chanter, il n'y voit pas plus clair. Et puis 40 pages plus loin, Freud reprend le même thème, mais cette fois-ci de manière plus froide et plus péremptoire. Il dit « Wenn wir nicht klar sehen können, wollen wir wenigstens die Unklarheiten scharf sehen. » Si nous ne pouvons pas y voir clair, nous voulons au moins voir avec acuité les obscurités. C'est là une déclaration parfaitement logique. Et pourtant, comment n'y pas voir un tour de passe-passe digne des plus grands illusionnistes ? Si nous n'y comprenons rien, comprenons bien au moins ce qui nous est incompréhensible. Ce sont là des réflexions, on ne peut même pas dire des appels, parfaitement désespérantes pour le métapsychologue. On n'y verra rien et ça nous restera incompréhensible. Et c'est ici que je voudrais introduire ma métapsychanalyse. Ce qui manque dans ces phrases, c'est le cri d'espoir pour le métapsychanalyste, pour celui qui théorisera l'action de la pensée sur la pensée, donc la modification possible, le changement, l'ouverture sur l'avenir, ceci au moyen du langage de l'Œdipe, du langage de l'amnésie infantile. Ce qu'il faut, c'est que le promeneur qui chante en vain échappe à sa mortelle solitude et à son effroi métapsychologique et qu'il rencontre un analyste qui veuille bien chanter avec lui la partition de la métapsychanalyse. Chanter le transfert à deux voix, chanter le duo de l'Œdipe. Ainsi, Hans ne sera plus seul avec sa phobie du cheval qui ne lui dit rien, ni seul avec son père qui n'y comprend rien. Il sera avec son Freud, mi-cheval, mi-père, mi-mère, qui lui au moins pourra partager sa chanson avec lui et transformer sa triste complainte de mal-aimé en hymne d'espoir. Et il n'est pas facile de faire cela, car ce duo oscille entre une et trois voix, comme on vient de le voir. Ce que montrent aussi les impressions de l'analyste en action. Quand l'analyste en action, si son analysé l'ignore superbement, l'analyste se sentira devenir mélancolique ou par réaction maniaque. C'est la névrose narcissique. si l'analysé n'a que l'analyste en tête, ce dernier s'en sentira devenir paranoïaque ou persécuté. C'est la psychose. Enfin, si l'analysé transfère comme souhaité, l'analyste ne sera ni lui ni l'autre, mais l'autre de l'autre, et ce sont les névroses de transfert. Ni Freud, ni le cheval, mais le père du cheval, le fils du cheval, l'étalon de sa jument, père, mère, enfant, trio édipien. La métapsychanalyse, c'est alors la science du langage de l'inconscient. L'analyste parle le langage de l'amnésie infantile, le langage de l'Édipe, et il écoute au nom du même langage, le langage de l'objet de la pulsion de son analysé. Car l'objet de la pulsion de l'analysé, ce sont précisément les objets de l'amnésie infantile, soit le trio édipien. Et l'analysé, on le lui souhaite, apprendra à retrouver son langage d'amnésique. Le dialogue deviendra dialogue entre deux analysants parlant du fond de leur amnésie, de leur inconscient, de ce temps passé, et simultanément dialogue entre un analyste et un analysé parlant dans leur temps, ce temps réel, comme on dit. D'où la métapsychanalyse, c'est aussi la science du fonctionnement du transfert. Écouter et participer aux complaintes édipiennes, c'est accepter de les revivre, de se laisser influencer par la pensée des autres, comme tout le monde, ainsi que par la sienne, mais sans craindre d'y perdre son identité, puisque ses pensées seront celles de toute leur vie, passée et présente. Et c'est ainsi que l'analyste découvrira ce que rationnellement il cherchait à nier, l'objectivation métapsychologique, il découvrira l'interaction de deux systèmes de pensée, l'action métapsychanalytique. Le métapsychanalyste, c'est l'analyste qui parle et écoute avec un langage issu de l'amnésie, le langage de l'inconscient. Comme tout langage, c'est une langue universelle, propre à tous, car nous avons tous vécu une amnésie, notre amnésie infantile. C'est le langage de l'oubli. Mais c'est aussi une langue particulière à l'ethnie des psychanalystes. C'est la langue du complexe d'Édipe, comme la langue d'un pays ou d'une nation. Et c'est enfin une langue privée, comme le langage des enfants, le zoc ou le verlan, ces langages des enfants qui disaient « ils ne savent plus quoi pour ceci ou cela » et qui ne disaient pas « ils ne savent plus quoi pour ce qu'ils n'avaient pas encore découvert ». La métapsychanalyse viendra compléter la métapsychologie en rendant à la psychanalyse son pouvoir d'action sur les gens qui s'y prêteront. En ceci, elle est théorie de l'interprétation de la solitude intérieure, conséquence de l'amnésie, dans le sens de la réinsertion dans un monde de relations humaines et accessoirement, théorie du traitement de ce qu'on appelle maladie mentale ou organisation névrotique. Et s'il nous faut des mois et des années, à 30 voire 40 heures par semaine, pour apprendre à parler la langue de nos voisins, 3 à 4 heures par semaine pendant des mois ou des années pour apprendre cette langue oubliée ne seront finalement pas de trop. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier, pour ce splendide exposé, vraiment. Et j'ouvre la discussion.
Bien, je prends la parole, Olivier, pour te remercier de cet extraordinaire exposé avec lequel je me suis habitué, mais j'ai appris beaucoup de choses en plus quand tu as fignolé justement la notion de la métapsychanalyse. Là, je ferai quelques remarques, je les ai fait dans le passé aussi, par rapport à ce que tu ne reproches pas, mais tu la différencies avec la métapsychologie. Vraiment, tu l'as dit souvent, mais ça n'a pas, je n'ai pas pu l'intégrer, ce que tu dis que la métapsychologie est liée, comme tu le dis, avec le corps ou le soma. Tu as noté une phrase de Freud qui a probablement dit une chose de ce genre, mais Freud aussi, sinon dans la métapsychologie, mais ailleurs, il a dit ce que je dis la vendredi dernier, que les pulsions sont notre mythologie. Donc en les mythologisant, il les a pas décorporalisées, mais il les a donné une dimension qui va avec ta pensée métapsychanalytique. Et aussi, il a nommé, ça je le dis une autre fois, peu importe, on peut se demander pourquoi il parle du destin des pulsions. Ce mot, moi, ça m'a toujours intrigué, destin. Le destin, c'est quelque chose qui est loin d'une matérialité corporelle, qui nous fait penser au destin de l'homme qui fait l'homme homme, le côté de la divinité qui nous a créés, il ne nous a pas créés, et toute la problématique de l'anthropogénèse qui était la base de la pensée de Freud. D'autre part, remarque, pas parce que je suis psychosomaticien, au sens que je le vois, comme je le dis, vendredi dernier, le psychosomaticien s'occupe que de la psyché pour protéger le corps. Là, on arrive à quelque chose qui nous intéresse, la métapsychologie qui peut renforcer la mentalisation, mais que moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que l'entité de la... comment dirais-je, de l'être humain, l'entité anthropologique de l'être humain, je ne peux pas le décorporaliser. Ce n'est pas le reste de mes études médicales, mais bon, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas que le corps ou le cerveau sont des infrastructures à travers lesquelles et à partir desquelles il y a une entité psychique que tu la conçois. Mais là, il y a de petits dangers depuis Platon qui disait, comme tu sais, qu'après la mort, la psyché ayant purgé sa peine trouve enfin sa liberté. Pourquoi pas, tu me diras. Mais si Platon ne me gêne pas tellement, les extrémités théologiques en tant qu'analyste me déplaisent davantage. Je pense qu'allusivement, on a déjà parlé du danger de couper la psyché, ce qu'il a fait la théologie, finalement. Bien sûr, la psychanalyse l'a fait plus noblement et plus scientifiquement, et toi aussi, mais là, je vois un petit danger que j'aimerais le souligner. Bon, tu as dit des tas de choses, je notais parce que je veux le garder, pas pour le... faire remarquer ou les contester. Tu as laissé un optimisme pour la psychanalyse, je pense, que je partage. Tu n'as pas dit quelque chose, mais qui va de soi dans ta pensée, de nous tous psychanalystes, que ce qui sauvera, ce qui fera la pérennité de la psychanalyse, c'est la découverte de la sexualité infantile qui, elle, existe, psychique, somatique, zone érogène, tout ce qu'on veut. Alors, Freud qui l'a découvert, Freud l'a mis en évidence et en relief. Donc, si quelque chose sauvera la psychanalyse, si elle a besoin d'être sauvée, ce sera la sexualité infantile. Juste une curiosité, vraiment, en français on dit le Charybde, le Scylla ou la Charybde ou la Scylla? Bon, Homère le faisait de deux monstres féminins, toutes les deux, c'est ça que je voulais dire. Merci.
Peut-être ceux qui veulent poser des questions peuvent venir ici. Cette relation nous oblige à une gymnastique un peu compliquée.
Il n'y a que ceux au bord qui peuvent répondre tout de suite.
Moi, je peux juste dire un mot quand même à ton intervention, Nikos. Je te remercie beaucoup. Je crois que la métapsychologie, finalement, si je la centre sur ce côté somatique, bien sûr, Freud a dit la mythologie et le destin. Mais ce qui m'intéresse, c'est par contraste, c'est que la métapsychologie est objectivante. Qu'il objective et que par conséquent, celui qui crée la métapsychologie s'en trouve dehors. Et alors, les pulsions, dans ce sens-là, sont effectivement ce qui m'intéresse, c'est qu'elles sont liées aux zones érogènes, infantiles, et que par conséquent, on peut les objectiver dans un individu qui a ses zones et ses pulsions. Mais je ne nie pas pour autant que Freud ait dit à la mythologie, mais je pense que ça a amené, et toi tu le sais aussi bien que moi, quand on parle du destin, à la fameuse pulsion de mort, dont on n'arrive pas à se tirer d'affaire, qui a fait tous les conflits que l'on sait. Et je crois que c'est aussi dans ce sens-là que, en tirant la métapsychologie sur ce qu'elle est aussi, ce côté objectivant est lié au corps, ça me permet de n'avoir pas à se perdre dans ces méandres de la pulsion de mort et de pouvoir penser à ce qui me paraît plus intéressant pour toi comme pour moi, de l'action qu'on peut avoir en psychanalyse.
Je vais dire deux mots. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié votre exposé, aussi bien la première partie que la deuxième, où je sens tout à fait je peux suivre tout à fait vos développements. Concernant la deuxième partie, bon, je vous ai aussi lu à propos de la métapsychanalyse et j'ai toujours trouvé vos idées intéressantes, mais j'ai toujours un peu la même question qui revient en vous écoutant. C'est le problème de la théorie, c'est-à-dire, vous dites Freud s'est trouvé à l'extérieur de sa métapsychologie, il l'a regardé comme quelque chose qu'il construisait, enfin, construisait une théorie. Est-ce que ce n'est pas le propre de toute théorie? C'est-à-dire, si nous essayons de construire quelque chose, je ne l'appellerai pas théorie, mais un édifice, n'importe, une référence à partir de vos idées de la métapsychanalyse, est-ce que nous ne sommes pas nécessairement dans une situation où celui qui théorise se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire au moment de la mise en forme de ces idées? Comment échapper à ça? Comment écrire sur quelque chose qui est mouvant, qui se vit justement dans l'intersubjectivité, qui est tout le temps en train de changer de point de vue, d'objet, etc., etc. Ça, c'est ma première question qui entraîne le problème des liens que vous dites, vous avez dit que la métapsychanalyse peut compléter la métapsychologie. Alors, c'est ce mot compléter. Ce que je ne vois pas non plus très clairement, c'est l'utilité que peut, si on part de votre point de vue, que je partage totalement, parce que finalement dans la pratique, je crois que nous sommes dans ce que vous nous avez dit. Mais si nous voulons quand même faire quelque chose avec cette métapsychologie, quelle est l'utilité pour quelqu'un qui s'occupe de métapsychanalyse? Quand je dis utilité, c'est est-ce que cette métapsychologie, nous devons la traiter comme quelque chose qui sera un héritage des parents, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui nous a été fourni par notre lien par rapport à Freud, mais comme quelque chose qui serait l'héritage des parents, auquel nous devons nous éloigner, nous distancer, nous séparer, tout en gardant un lien avec, en construisant notre propre façon d'être par rapport aux patients, aux liens avec nos patients. Quelle place lui donner à cette métapsychologie ? Parce que vous, j'ai bien compris que vous ne la mettez pas, vous ne la rejetez pas. Quelle est la place, par exemple, qu'on peut donner au problème des zones érogènes par rapport à cette théorie de l'amour et de la haine ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quand même... Compléter, c'est un terme que je trouvais un peu général. Enfin, il me paraît difficile de le préciser. Alors voilà les premières, enfin c'est un peu là-dessus que je voulais intervenir tout de suite. Bon, il y avait énormément de points, mais voilà mes questions.
Écoutez, c'est bien difficile. Je ne sais pas. L'idée que la théorie est nécessairement à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas un a priori comme toute affirmation, quelle qu'elle soit ? Moi, il me semble, ce qui me paraît difficile, je n'ai pas envie de rejeter la métapsychologie parce qu'on est tout le temps obligé d'extérioriser, comme au Moyen-Âge on extériorisait ses démons, ou comme on extériorise la science, mais néanmoins, je crois que extérioriser sans tenir compte de la... Si ça devient une théorie dans le sens que vous laissez entendre, je me dis que ça n'est pas extériorisé, mais que c'est extérieur. Et que je pense que le fait d'extérioriser fait qu'en psychanalyse, on est toujours sous tension. On est toujours sous tension entre l'extérieur et l'intérieur. On est toujours partagé entre le besoin d'extérioriser et d'intérioriser, et que c'est le propre de ces relations humaines, où je crois que l'objectivation est impossible, mais la subjectivation est désastreuse. On est toujours obligé de trouver quelque chose, un parcours intermédiaire. Alors je pense que quand toutes les sciences exactes, elles, n'ont pas ce problème-là, elles sont débarrassées de l'intériorisation et de notre, justement, de cette sexualité infantile et de notre amnésie intérieure, elles peuvent tranquillement faire des théories extérieures parce qu'il s'agit de nature, il s'agit d'anatomie, il s'agit de maladie. Mais quand il s'agit de psychisme, il me semble que là, on est inévitablement mis sous tension et qu'alors on ne peut... Que je vois pas pourquoi on pourrait pas faire quand même essayer quand même de le théoriser, même si je dirais que ce travail n'est peut-être que je fais, c'est pas une théorie, c'est une théorisation, que c'est une quelque chose qui est en mouvement. Oui.
À mon tour de te remercier, Olivier, de cet exposé vraiment intéressant et magnifique. Tu sais bien combien nous avons été d'accord très souvent à propos de métapsychologie. Je vais peut-être aujourd'hui ne pas être tout à fait d'accord et te poser quelques questions. D'abord, y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand tu parlais d'objectivation, l'objectivation de la métapsychologie, j'ai eu une idée un petit peu bizarre, c'est que... tu ne parlais pas seulement du fait qu'on met à l'extérieur quelque chose, ce qui est le propre du mot objectivation, mais que ce que tu reprochais fondamentalement à la métapsychologie, c'était de parler de l'objet. C'est-à-dire de parler de quelque chose particulièrement inerte, tel que Freud le décrit. L'objet se pose comme un élément qui vient satisfaire une pulsion à un moment déterminé, qui propicie cette satisfaction, mais sans que elle, cet objet, ait une existence propre autre que celle que la pulsion du sujet lui confère. Alors, je pense effectivement que ça, c'est un problème important, parce que je crois que c'est un peu dérivé d'une certaine pensée positiviste et naturaliste de Freud, qui part de la nécessité de trouver une solution, comme tu disais, au mal d'être mal aimé. Comme je dirais avec mes mots, c'était au mal d'avoir un manque à être lié à la scène primitive, cette scène dans laquelle nous n'avons pas été là comme sujet désirant, et pourtant il ne s'agissait que de nous, puisque nous en venons. De ce manque à être, effectivement, il fallait en faire quelque chose, et Freud a proposé la théorie de l'objet qui vient satisfaire. L'objet qui vient satisfaire et qui vient, par exemple, à un moment déterminé, sous forme de corps, se poser, effectivement, comme quelque chose qui peut conclure, qui peut faire disparaître l'excitation, qui peut répondre très exactement à l'excitation pulsionnelle. Cependant, si on prenait les choses tout autrement, c'est-à-dire si on pensait que, en fait, il ne s'agit pas d'objets, mais qu'il s'agit d'emblée des sujets, des deux sujets, que ce soit naturellement, c'est-à-dire dans les relations entre mère et enfant, ou que ce soit en analyse, analyste et analysant. S'il s'agit des deux sujets, et là, je sais que tu es d'accord sur ce point-là, le corps ne devient pas gênant, ou terriblement gênant, puisque de toute manière, le corps se dérobe. Il y a une partie du corps qui ne se prête pas à être objet pour l'autre. Il y a une partie du corps qui, de toute manière, va être réservée à soi, va être réservée et va être justement ce que l'autre ne pourra jamais appréhender. Alors, à ce moment-là, effectivement, ce corps-là, qui ne sera jamais objet de satisfaction pour le sujet de la pulsion, ce corps-là peut rester investi et présent en analyse, et pour moi, il n'y a peut-être pas nécessité de le nier, de le refuser, mais tout simplement, ce qu'on peut refuser, nier, c'est sa nécessité en tant que corps satisfaisant les pulsions de l'analysant ou de l'analyste.
Ça, tu me permets, parce qu'en écoutant Ignacio Mello, c'est pas pour traduire en simplifiant ta pensée avec laquelle je suis tout à fait d'accord, mais j'ai senti une réponse à Elsa aussi par ce que tu dis, parce que Elsa a dit à Olivier Flournoy, mais finalement du moment où il y a une théorie, il y a une objectivation inévitable. Alors, je pense que Olivier, en répondant, en faisant théorie-verbe ou théorisation, c'est-à-dire la théorie, c'est pas un objet, c'est le produit, c'est la création de celui qui théorise. En ce sens, ce produit, c'est pas un objet avec lequel on prend une distance, mais c'est ce mouvement. Pardon ? Mais c'est ça que je vais aboutir en résumant à ma façon ce que Ignacio a dit. C'est le moment suprême où le sujet se moule avec l'objet.
Oui, j'apprécie tout à fait vos théories, mais c'est pas la mienne. Je pense que non, je pense que je partirai aussi d'Ignacio Mello. Moi, je pense quand même que le pour moi, le fondement, c'est justement ce mystère absolument indéchiffrable de la scène primitive. Et alors, je pense que quand tu parles de deux sujets, de la mère et de l'enfant, ça me convient pas du tout. Moi, je dirais que alors là, tu as deux sujets concrets, tu as une femme et puis tu as un enfant. Je pense que pour moi, la mère, c'est justement une affirmation, eine Bejahung, comme dit Freud, qui cache la négation de l'autre, c'est-à-dire la mère, c'est l'autre du père. Et puis que le père, c'est aussi une affirmation qui cache la négation de l'autre, qui cache la négation de la mère. Et alors, c'est là que je crois qu'on est toujours déchiré entre un ou trois, où on est seul, ou alors on est en présence de cette chose totalement incompréhensible, que c'est pas qu'il y ait une femme ou qu'il y ait un homme, mais c'est qu'il y ait la mère négation du père ou le père négation de la mère, mais qu'il y a ce couple et qu'on ne peut jamais avoir comme satisfaction la satisfaction que ce couple obtient ensemble. Donc la satisfaction est inconcevable, elle est uniquement qu'en devenir, à rechercher. Et là, ça amène évidemment à tout un autre plan que j'ai effleuré, mais dont j'avais parlé de mon livre, c'est que devant cette impossibilité de l'objet, que l'objet ne peut pas être trouvé, alors où trouver du plaisir, où trouver de la jouissance, eh bien, je la place dans le dit, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on essaye de dire de ces objets qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas des objets.
Les imagos. Voilà.
Qui sont des imagos négatifs, des imagos. Non, je ne pense pas des imagos, justement, qui sont le négatif d'imago.
Mais l'imago, oui, pour moi, l'imago, c'est ça. C'est le négatif de l'image des parents. C'est ce qui vole haut dans le ciel, mais on ne voit pas, finalement.
Oui, mais l'imago, c'est le négatif de l'imago qui serait son positif.
Oui. Qui a envie d'intervenir ?
Toi, non ?
Alors, merci Olivier d'avoir fait un sort à ce ton molesto dans lequel effectivement comme Galbraith l'avait si bien dit, et je souligne que c'est un professeur d'Harvard, conseiller de Kennedy et pas un révolutionnaire, d'abord la classe moyenne passera à la moulinette et ensuite la classe moyenne haute, et alors finalement qui peut plus se permettre de se payer ses heures. Il faut quand même pas trop incriminer les assurances, je pense, parce que Freud n'avait pas d'assurance. Et si je me rappelle bien, dans un texte, il recommande à Ruth, le nom m'échappe maintenant, de se faire donner au moins 20 florins d'argent après chaque séance. Donc, je pense qu'il y a quand même un changement, peut-être, de société. Mais, effectivement, d'une certaine façon, je pense que c'est inévitable que dans la médecine se produise un certain nombre de phénomènes qui correspondent au fait qu'un public énorme a pu, effectivement, s'approcher de la psychanalyse ou de la psychothérapie analytique grâce à ce système d'assurance. Donc, nous voyons des retombées de quelque chose que nous avons contribué, certains d'entre nous au moins, à mettre en place. Cela dit, ce sort que vous avez fait, vous l'avez fait par un enchantement qui consiste à faire appel aux forces de la pensée. J'étais vraiment énormément frappé par votre exégèse du texte de la névrose démoniaque et par l'image de, pour le dire, ça fait penser à Shakespeare, aux elfes, aux nuits peuplées de fantômes, qu'il s'agit comme la nuit de Macbeth d'échanger par l'analyse. Et je suis aussi d'accord avec vous sur le fait que finalement, certaines fois, la psychanalyse de Freud ressemble un peu à une très bonne psychothérapie pour le psychiatre biologiste, parce qu'elle est bien fondée sur les pulsions, et dans ce sens, je peux accepter la critique de la métapsychologie. Une version néo-darwiniste pourrait très bien faire l'affaire d'une certaine psychiatrie d'aujourd'hui. Et enfin aussi, je pense que dans ces temps d'éclectisme, de syncrétisme, de bétonnement par la médiation et l'intégration de tout, les psychanalystes doivent monter aussi la ligne, la démarcation, comme disait un grand écrivain italien. Ils doivent porter dans la société l'épée. Et donc, je crois que quelque part, vous l'avez dit haut et fort, cette épée, vous l'avez portée ce soir, et je crois que c'est ce que nous tous nous avons ressenti de façon très importante. Et puis je suis d'accord avec vous que finalement c'est les chagrins d'amour qui amènent nos passions chez nous. Mais voilà, l'amour, alors il nous précipite dans quelque chose qui me permet au moins d'essayer un tout petit peu de vous contester pour reprendre un peu d'auteur phallique autrement.